Bonsoir Anne Fauganberg, merci beaucoup. Ce soir, nous sommes à Clermont-Ferrand, dans les studios de France Bleu, pays d'Auvergne.
Sur la route, Julie Gacon, avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Être ou ne pas être. Mourir, dormir. Mourir, dormir, dormir. Doucement. Maintenant. Voici la belle Ophélia.
Bah, c'est pas si mal, Yvon, le monologue d'Hamlet version low cost. Oui, on m'a proposé de participer à un spectacle, une représentation là, de Shakespeare. Alors, c'est cofinancé par le département de l'Allier, et ils m'ont dit, faut pas que ça coûte cher, y a plus de sous. Donc il faut faire court. Alors moi, je fais court.
Eh bien, je vais faire court aussi pour la présentation de cette émission qui réunit pas moins de 5 invités ce soir dans les studios de France Bleu Pays d'Auvergne. J'explique le contexte. L'équipe de Sur la route a été alertée il y a quelques semaines d'une suppression alors imminente de toutes les subventions départementales aux compagnies de théâtre de l'Allier. Des discussions sont en cours avec le Conseil Général dont le vice-président Jean-Sébastien Laloy sera là en deuxième partie dans un débat avec un conseiller d'opposition, Bernard Pozzoli. Mais nous avions d'abord envie d'en profiter pour raconter comment et pourquoi tant de comédiens, de metteurs en scène, d'artistes ont élu domicile dans le Bourbonnais, notamment vous, Freddy Etter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes scénographe et facteur de masques, paraît-il, que nous disons qu'il faut dire.
Bon, c'est bref, cela, exactement.
Facteur de masques. C'est vous qui faites les masques de la compagnie Foods Barn, longtemps itinérante, mais installée depuis 1989 à Hérisson, joli petit village sur les bords de l'Aumance et épicentre de notre discussion de ce soir. Mmh. Il y a aussi ceux qui sont nés dans la région et qui sont restés, tels que vous, Michel Durantin, bonsoir.
Bonsoir.
Acteur et metteur en scène de la compagnie du Petit Bastringue à Cône-d'Allier.
Voilà.
C'est tout
ça.
Près de Hérisson.
À 10 kilomètres.
À 10 kilomètres. Alors, on peut citer rapidement d'autres compagnies, la Belle Meunière, le théâtre d'à côté, Entracte, la compagnie Attrape-Sourire. Il y a beaucoup de compagnies théâtrales dans l'Allier, une quarantaine, quoi, à peu près.
Ouais. On a répertorié à peu près 40 compagnies en tout, je crois. Ouais. Professionnelles, parce qu'il y a aussi des troupes amateurs, mais.
Un foisonnement assez exceptionnel dans ce département rural. Il y a une explication historique à ce foisonnement artistique, et c'est vous, Olivier Perrier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous, l'aîné, l'ancêtre, vous dites.
Oui, on peut dire ça, ouais. Oui, c'est mon petit-fils, là.
Michel Durantin.
Oui.
C'est vous qui avez fait, Olivier Perrier, de Hérisson, une vraie scène de théâtre avec plusieurs compagnies, avec le Cube, la salle de production du Théâtre des Fédérés de Montluçon, des rencontres théâtrales chaque été. Olivier Perrier, Hérisson, c'était votre village natal, mais tout jeune, vous en étiez parti pour la Lorraine, puis pour Paris, où, entre autres, vous avez commencé une carrière de cinéma. On vous a d'abord vu dans les Camisards de René Alliou, entre autres. Qu'est-ce qui, en 1976, vous pousse à revenir à Hérisson et, en quelque sorte, à y clouer vos planches?
Disons que je n'étais pas de ce monde-là. Moi, je ne suis pas né dans un chou, je suis né sous une bouse. Je suis vraiment de la campagne.
Vous êtes un vrai Bourbonnais.
En tout cas, je suis de la campagne. Et donc, je suis plutôt d'une culture qui n'est pas la culture savante. Et le théâtre que je faisais, c'était... par exemple, j'ai joué le rôle de Wojciech dans la pièce de Buchner, qui est vraiment un des écrits notoires du théâtre allemand, qui pour nous était un des premiers du théâtre contemporain, avec Jourdeuil, Vincent, au Palace où on était à l'époque.
À Paris.
Et d'autres spectacles aussi de ce type, disons de très beaux textes, des textes un peu marginaux aussi. Et en tant qu'acteur, ça m'allait pas mal, mais malgré tout, il y a quelque chose de moi qui me manquait. Parce que moi, j'ai jamais voulu faire du théâtre dans ma vie. Ma maman m'a dit, tu seras instituteur. Donc, j'étais instituteur et je trouvais ça très bien. Mais j'aimais aussi beaucoup, comme on dit, quand j'étais au lycée, faire le con. Et le théâtre était, pour moi, c'était ça, c'était faire le con. Et c'était un moment de délassement.
Donc, fin des années 70, début des années 80, vous allez partager ça avec les habitants de l'Allier, partager ces moments de délassement. Comme vous dites, avec Jean-Paul Wenzel et Jean-Louis Hourdin, vous êtes les fédérés qui organiseraient chaque été les rencontres théâtrales de Hérisson dans la grande tradition du théâtre expérimental populaire. Vous venez très vite à la mode. On fait Hérisson comme on fait Avignon à l'époque. Ce sont les théâtres parisiens qui viennent vous voir.
On était sur la route d'Avignon comme, disons, les acheteurs venaient faire leur course à Hérisson, parce que nous, on n'avait pas l'intention de faire un festival. On voulait faire une rencontre de gens de théâtre pour débattre de ce que c'était que un théâtre populaire aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire continuer notre engagement sur Paris, qu'on appelait le Tex-Pop, c'est-à-dire théâtre expérimental et populaire. Autrement dit, que ce soit très tendu sur un théâtre contemporain.
Est-ce qu'à l'époque, il y a parmi les habitants en fait de Hérisson, est-ce qu'il y a des réfractaires, des gens complètement indifférents, voire réfractaires?
Bien sûr, hein, même dans le premier spectacle, enfin à l'occasion du premier spectacle que j'avais réalisé avec une vache charolaise et un cheval de trait, qui s'appelait Les Mémoires d'un Bounoum, les agriculteurs sont venus voir mes amis, des gens que je connaissais, et puis même que je ne connaissais pas. Et à la sortie, ils m'épinglaient en me disant « Mais qu'est-ce que tu viens raconter nos histoires? Ça n'intéresse personne. » Ils n'accueillaient pas bien le fait que leur histoire soit mise sur le plateau.
Alors, voilà. Cependant, vous connaissez très vite un grand succès dont vous n'êtes pas jaloux, Olivier Perrier, puisque vous encouragez les comédiens, les metteurs en scène, les artistes à se lancer quand ils sont du coin ou à s'installer quand ils ne sont pas d'ici. Freddy Hetter, c'est avec Olivier Perrier que commence l'aventure de Futzbarn dans l'Allier, puisque c'est lui qui vous fait visiter ce grand corps de ferme désaffecté où vous êtes encore aujourd'hui.
Absolument.
Qui se trouve, oui. Où on peut le décrire un peu, cet endroit dans la campagne?
C'est entre à mi-chemin entre Vallon et Hérisson, mais en pleine campagne. Et c'était, je pense que c'est le plus grand corps de ferme dans le coin, parce qu'on en a visité beaucoup. C'est exceptionnel, avec 3 maisons, 2 granges, magnifique, mais en ruine totale. Et quand Olivier est venu nous chercher, parce que nous logions en caravane au camping d'Hérisson pour répéter au Cube, il a dit « Je vais vous montrer un endroit où j'ai répété, mais surtout, il faut pas l'acheter, c'est un gros tas de cailloux. » Et je crois qu'il était en train de nous planter une idée dans la tête, ou je sais pas, jusqu'à ce jour. Mais en tout cas, on a vu ça, et à l'époque, on pensait, on était encore un petit peu attachés dans le sud de la France à l'Odève, mais on s'était senti tellement bien, les 2 premières créations qu'on a fait au Cube, et implanté dans le village, qu'on a décidé. C'était un coup de cœur, vraiment.
Vous qui aviez été si longtemps nomade,
oui,
pendant 20 ans,
ans,
vous vous implantez ici dans l'Allier, et alors vous jouez presque devant des habitués. En fait, Olivier Perrier avait préparé un petit peu le public.
Oui, immédiatement, on a senti la différence, parce que quand un groupe basé en Angleterre quitte l'Angleterre, d'abord sa destination, c'est au soleil quand même. Alors on a choisi le sud, on a été à Uzès, à l'Odève, et en arrivant à Hérisson, on était étonnés de l'ouverture d'esprit et de la curiosité des gens du village. Ce qui fait qu'après 3 mois de répétition, premier spectacle au Cube, on a monté notre chapiteau devant et on jouait La Perle, c'était une adaptation de la nouvelle de Steinbeck. Tout le village est venu et il faisait froid, c'était le mois de mai. Tout le village, les plus anciens comme les jeunes, et tout le monde, c'était très touchant, parce que le lendemain, en allant à la boulangerie, à l'épicerie, les gens du village parlaient du spectacle et il y avait des retours. Et c'est vraiment, on sent un public qui est à la fois averti mais enthousiaste, voilà, pas blasé comme dans les grandes villes où ils sont tellement gâtés du choix que
Alors, petit à petit, des nouvelles troupes se créent, des vocations naissent, comme la vôtre, Michel Durantin, aujourd'hui acteur et metteur en scène au Petit Bastringue, à Cône-d'Allier. Vous alliez peut-être voir Olivier Perrier, vous aussi, quand vous étiez petit, ou le Futsbarn, mais en tout cas, vous baignez dans cette culture déjà ou pas?
Oui, bien sûr, depuis tout petit. Hein, mais...
c'est son père qui a fait, qui était imprimeur, qui a fait la première affiche en 76 des Rencontres d'Hérisson.
Ah, donc c'est une affaire de famille.
Bah ouais, c'est ça.
C'est pour ça.
D'accord, c'est comme ça que vous êtes rencontrés, Michel Durantin.
Et aujourd'hui, j'ai pas tellement eu le choix, quoi.
Le petit Bastringue aujourd'hui, c'est une affaire, alors peut-être pas familiale, mais en tout cas, c'est une affaire locale.
C'est une affaire locale, ouais, c'est une affaire locale et à vocation locale, mais pas uniquement, mais enfin en tout cas, qui est vraiment implantée en milieu rural, dans une petite cette commune de Cône-d'Allier, qui est une commune de 200-300 habitants, qui n'est pas du tout une commune d'ailleurs, qui n'a jamais été une commune tournée sur la culture, hein, d'une manière générale, pas comme Hérisson par exemple, et depuis, avec cette ouverture, parce qu'on a, avec la commune, on a pu ouvrir un théâtre qui s'appelle maintenant le Théâtre Le Bastringue, qui est un lieu où on peut accueillir jusqu'à 200 spectateurs, un lieu fonctionnel, un lieu de résidence, voilà, donc ça c'est un lieu vraiment implanté en pleine campagne et...
Alors, entre autres, vous leur proposez quoi?
Ah ben, on leur propose beaucoup de choses, c'est assez ouvert. De temps en temps, il y a des concerts. Il n'y a pas très longtemps, on a accueilli Mio Sec, vous voyez, donc c'est déjà pas mal.
Mais vous, en théâtre, je crois qu'en ce moment, vous jouez Les Mémoires d'un fou?
Le journal d'un fou, de
Gogol.
Journal d'un fou, Gogol, Le Petit Prince de Saint-Aix, Alpenstock de Rémi Devos, par exemple.
Moi j'ai vu Le Journal d'un fou, en particulier, bon, Alpenstock aussi, mais Le Journal d'un fou, Michel est vraiment là un acteur superbe, quoi. Étonnant. Il faut absolument que ce spectacle circule, quoi, vraiment.
Mais vos programmations respectives ont fait des fidèles. Nous avons rencontré quelques-uns de ceux qui ont signé la pétition pour soutenir les compagnies face à la suppression annoncée des subventions départementales.
Je m'appelle Véronique Génaud, j'ai 47 ans bientôt, je suis médecin généraliste, médecin de campagne et j'ai fait mes études à Paris, je suis parisienne à l'origine et c'est vraiment par choix que je suis venue m'installer dans cette belle région, voilà.
Quand vous êtes arrivée, est-ce que tout de suite vous vous êtes renseignée sur l'offre théâtrale, artistique, vous qui veniez d'une grande capitale culturelle, est-ce que ça vous intéressait?
Oui, tout à fait, mais elle est venue à moi assez rapidement, j'ai découvert le Futsbarn en premier. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir des spectacles, des saltimbanques juste à côté. Je trouvais ça vraiment génial. On nous apporte le théâtre à domicile, on nous l'apporte aussi dans les fermes. Théâtre à la ferme, j'ai des amis agriculteurs qui reçoivent les compagnies chez eux. C'est assez. On est content qu'ils soient là. Quoi. Ça fait une diversité, ça fait un apport, hein, une bouffée d'air, une grande richesse culturelle et beaucoup d'humour, beaucoup de chansons, beaucoup de. Non, on n'imagine pas que ça s'arrête d'un seul coup, là. C'est vrai que on a plein de choses qui se passent. Bon, dès que je peux, j'y vais, ouais, tout à fait, ouais.
Alors, donc, je m'appelle Marie Métainier, je suis éducatrice dans un foyer pour personnes déficientes à Néry-les-Bains. Je vis à Hérisson depuis quelques années et c'est un village qui est bien agréable à vivre.
Est-ce que vous allez souvent au théâtre?
Oui, c'est une des richesses de Hérisson qui nous permet justement de pouvoir aller régulièrement au théâtre. Au moins chaque mois, il peut y avoir des choses et toujours accessible et populaire. J'y vais souvent aussi avec mon fils parce que ça, voilà, ça permet ça aussi, c'est d'ouvrir les enfants à la culture facilement, même en habitant à la campagne.
Il a quel âge votre fils ?
Il va avoir 10 ans, donc c'est déjà un spectateur habitué au théâtre, oui.
Est-ce que vous, Marie, vous êtes originaire d'ici? Est-ce que vous y êtes née?
Je suis issue d'un village qui n'est pas très loin, qui est à 15 km. Et en tout cas, petite, on allait toujours aux rencontres théâtrales de Hérisson. Donc j'ai toujours été habituée à être aussi spectatrice. C'est vraiment par le plaisir de la découverte et d'y voir des belles choses, ce qu'on nous y raconte. Toutes ces histoires qui peuvent nous faire rêver ou nous mettre en colère, mais en tout cas qui provoquent quelque chose, oui. toutes ces pièces qui nous, en tout cas, nous amènent à réfléchir quand on les a vues. Ça, c'est vraiment un des plaisirs du théâtre qu'on n'a peut-être pas forcément au cinéma. C'est des histoires d'amour, c'est des histoires horribles ou des histoires qui nous font rire, mais ça nous rend vivants.
Bernard Bouillet, j'habite à Issoire, je suis marié, deux enfants.
Et vous êtes un spectateur de théâtre?
Oui, oui, beaucoup, oui. On adore le théâtre, on adore sortir, on aime ça, on aime la rencontre avec les gens, on aime découvrir des choses.
Alors vous, Bernard, ce qu'il faut raconter, c'est que vous vivez aujourd'hui à Issoire, dans le Puy-de-Dôme, mais vous êtes originaire de l'Allier et vous avez vécu dans la campagne bourbonnaise avant la grande aventure des années 80, les fédérés, Olivier Perrier. Vous y étiez avant.
C'est vrai, je n'ai pas eu la chance de connaître cette époque-là.
Parce que vous étiez parti.
C'est parti, parti sur la région parisienne. Et après, retour sur la région dans les années 2001-2002. Et j'ai vraiment découvert qu'on pouvait faire de la culture à la campagne. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'une richesse. Parce que pouvoir donner de la culture à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer ou de rencontrer des gens, rencontrer des cultures différentes dans ces régions-là, vous allez au Festival d'Hérisson, vous allez rencontrer des Anglais, des Espagnols, des gens des pays de l'Est. Même sans comprendre, on arrive à vivre ensemble pendant 3 jours, 5 jours, 10 jours. Vraiment une richesse. J'arrive même pas à l'exprimer tellement c'est fort, très très fort.
Vous n'êtes pas du tout du milieu du théâtre, Bernard.
Non, je travaille dans l'industrie. Je suis responsable logistique dans l'industrie pharmaceutique. Donc le théâtre permet aussi de s'évader, sortir un peu du contexte industriel avec des pressions, avec rêver. Ça permet de rêver, pouvoir se libérer, s'exprimer librement parce que quand on est dans un monde industriel, on a forcément des contraintes, des procédures, et en sortir, ça fait un bien immense.
Tout à l'heure, vous m'avez dit, ça évite de prendre des médicaments,
oui,
d'aller au théâtre.
Oui, c'est vrai, ça évite de prendre des médicaments, justement, pour, comment dire, faire un break, pour éliminer un petit peu toutes ces contraintes, ce stress de la vie quotidienne, oui.
Pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, c'est se mettre en danger, alors?
Non, c'est une autre forme de thérapie. Moi, une pièce qui première pièce qui m'a marqué, c'est une pièce des Fussbard, c'est La Tempête de Shakespeare. Moi, j'ai découvert Shakespeare grâce aux Fussbard. Je connaissais pas du tout Shakespeare. On a découvert Shakespeare. Et une autre pièce qui joue en ce moment, qui s'appelle Nid de Coucou. Pour vous dire, on a dû la voir 6 fois avec mon épouse. Ouais, on passe pour des fous, mais on l'a vu 6 fois. Et on fait 1h15 de route pour une soirée quand il y a une soirée chez eux. Et on y tient, et on veut qu'il continue. On veut que ça continue.
Sur la route d'un théâtre presque à sec dans l'Allier. On verra en tout cas tout à l'heure à l'issue du débat politique en deuxième partie d'émission. Freddy Etter, vous entendiez Bernard qui est venu 6 fois voir Nid de Coucou avec son épouse. Ce sont toujours les mêmes que vous voyez dans le public ou quand même à chaque représentation vous arrivez à attirer de nouveaux amateurs de théâtre, de futurs amateurs de théâtre?
Souvent, surtout lorsque on monte le chapiteau dans les villages, il y a des gens qui viennent parce que c'est un chapiteau. Et des gens qui mettront jamais les pieds dans un bâtiment de théâtre, mais ils pensent que ça va être une sorte de cirque ou quelque chose. Et le nombre de fois dans les villages, on dit, mais c'est la première fois qu'on va au théâtre, on savait pas que c'était comme ça, on reviendra. Et ça, c'est touchant parce que ça a toujours été notre but dans le Fussbard depuis ses débuts, c'est d'emmener le théâtre là où il n'y a pas de théâtre et de, surtout les endroits ruraux. Et c'est des expériences très fortes. Ensuite, bien sûr, il y a les réguliers, les habitués, comme Bernard Bouillet qui est venu jusqu'à Avignon pour voir Nid de Coucou 10 soirs. Et c'est touchant aussi, les gens qui reviennent.
Olivier Perrier, jusqu'où peut aller ce rapport au public? Vous, en tout cas, il y a quelques années déjà.
À Hérisson, par exemple, ce qui a été étonnant, la première fois que j'ai joué à Hérisson, moi, avec une troupe amateur, c'était les Rustres de Goldoni, en 63, dans la troupe amateur dans laquelle j'étais, 600 spectateurs à Hérisson. Donc, quand ensuite, on a cherché un endroit pour faire du théâtre, on a dit, à Hérisson, Hein. Mais donc, il y avait quelque chose qui tenait, si vous voulez, à la tradition des peintres du 19e siècle et du rapport à l'artistique d'Hérisson. Hein, nous, on vient après tout ça. Il y a eu une grande époque de peintres qui sont venus à la suite d'Arpigny à la fin du 19e. Donc, c'est lourd d'un passé artistique. Et là, le fait, par exemple, qu'il y ait maintenant à Hérisson une salle de spectacle qui s'appelle Le Cube avec Pierre Meunier et où
la
il y a
manière.
de la création contemporaine. Hein. C'est-à-dire que les gens viennent, ils savent pas ce qu'ils vont voir. Et depuis 76, on a éduqué le public à venir voir des spectacles. Ils ne savaient pas ce qu'ils venaient voir. Et pour eux, c'était formidable parce qu'ils découvraient des choses. Ils découvraient entièrement. Il n'y avait pas derrière, si vous voulez, même quand on a fait avec Fussbarn, hein, il y avait les coproductions, même quand on a fait la pièce de Shakespeare sous les quais.
Roméo et Juliette.
Roméo et Juliette, c'était un Roméo et Juliette, mais complètement barge, hein, puisque chacun parlait sa langue. Mmh. Hein. Juliette était polonaise, Tybalt était arabe, enfin bon, c'était. Oui, il parlait dans sa langue.
Et ça a plu.
Et Olivier a joué le frère Laurent, en français quand même.
Mais le fait qu'il y ait des salles, c'est-à-dire qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait un centre dramatique à Montluçon, qu'il y ait le Cube à Hérisson, qu'il y ait le studio du Fussbarn à La Chaussée, qu'il y ait à Condallier, si vous voulez, le Bastringue, ça fait que des équipes peuvent venir là travailler. Et là aussi, expérimenter.
Michel Durantin, le public vient à vous et vous allez aussi parfois au public. Alors, je ne sais pas au Petit Bastringue si c'est votre cas, mais plusieurs troupes ou des acteurs vont dans les fermes souvent régulièrement.
Oui, oui.
Comment ça se passe? Vous y allez, vous, de temps en temps?
Ah oui, moi j'y tiens énormément, mais depuis le début, j'ai toujours fait ça. Et je trouve que c'est très important parce que, alors, on fait ça aussi, mais on travaille aussi avec pas mal, aussi avec des amateurs, on mélange aussi beaucoup. Donc, ce qui permet aussi d'aller chercher des publics qui, à la manière de Fussbarn, ne vont pas ou ne vont plus aussi au théâtre. Voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose, à chaque fois, c'est comme une redécouverte tout le temps.
Et ce sont les agriculteurs qui vous demandent de venir chez eux
oui,
ou en général, oui?
Oui, j'ai eu quelques cas comme ça qui, et puis ça fonctionne vraiment à merveille, quoi. Et on se croirait sur les plus grands plateaux de théâtre, quoi. C'est la même chose.
C'est la même chose, sauf que peut-être le public reçoit différemment le spectacle.
Oui. Après, voilà, ils sont pas complètement naïfs non plus. Voilà.
Naïf, c'était le mot qui revenait, Olivier Perrier. Naïf. Certains de vos compères à l'époque disaient que le public de l'Allier était naïf, ou en tout cas, il n'était pas formaté. Quand vous êtes
arrivé. C'est pour ça qu'on est venu à Hérisson, hein, parce qu'on ne voulait pas, on voulait, disons, essayer de parler de nos spectacles respectifs, hein, mais avec devant nous un public qui n'était pas justement un public habitué au spectacle. Hein, c'était ça l'initiative, disons, vers un théâtre populaire.
Freddy Etter, avant d'entrer dans le débat politique sur cette baisse des subventions allouées par le Conseil général et dont Jean-Sébastien Laloy viendra s'en expliquer tout à l'heure, on pourrait dire deux mots sur votre situation financière à vous, hors débat actuel. Elle est souvent à la limite, cette situation financière. Vous, chez Fussbarn, vous avez failli mettre la clé sous la porte à plusieurs reprises. Comment, financièrement, comment ça se passe? C'est-à-dire, ce sont les entrées qui vous font vivre, ce sont les subventions,
C'est un mélange de vente de spectacles, de subventions. Alors, notre métier, c'est extrêmement instable. On peut avoir une année faste, ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a énormément de coupes budgétaires partout, qui a un effet domino sur les troupes. Nous, on est en bas, quelque part, de l'échelle et donc, nous, on s'est mis en plan de continuation à cause d'annulations de gros contrats. Il a suffi de 3 contrats annulés dans une année pour nous faire basculer parce que on est dans une fragilité toujours. L'art n'est pas rentable. L'artiste a toujours été aidé. C'était les seigneurs avant. Maintenant, c'est les élus avec l'argent des contribuables. Mais l'art n'est pas rentable. Sinon, on tombe dans le commercial, dans le boulevard et les stars de télévision.
Et pour vous qui êtes implanté ici, financièrement, Michel Durantin, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il faut que vous remplissiez la salle à chaque fois?
Oui, entre autres, mais c'est de toute façon assez compliqué. Bon, nous, on a toujours fonctionné aussi comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est toujours retrouvé un petit peu avec des aides vraiment très, très, très petites hein, depuis qu'on a lancé notre affaire. Ça a toujours été très compliqué, vraiment, d'obtenir des aides publiques pour ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais là, c'est vrai que là on sent la guillotine qui est pas loin, quoi. Donc, c'est vrai que là, c'est très limite, quoi. Et forcément, parce que le but aussi de notre manœuvre, nous, c'est de... La commune de Cosne-d'Allier, par exemple, c'est une commune qui n'est pas riche du tout, donc elle ne peut pas non plus subvenir à ces besoins-là, c'est compliqué. Donc voilà, donc du coup, on est bien obligé de trouver des arrangements, on va dire. Mais bon, nous, c'est vrai que c'est avec tout le travail qu'on mène et tout ce qu'on fait vraiment sur le terrain et qui est reconnu hein, quand même, la coupe là qui vient depuis un petit moment, cette proposition de coupe, elle est assommante, quoi. Totalement assommante.
Olivier Perrier, depuis 1976, vous avez dû entendre souvent débattre sur l'utilité de subventionner ou non des spectacles, notamment comme les vôtres.
Eh ben oui, si vous voulez, un spectacle, par exemple, qui s'appelle « Honte à l'humanité », qui n'a rien à voir avec le journal, hein, c'était évidemment « Honte à l'humanité » où il y a... trois acteurs qui arrivent sur le plateau nus avec une queue de cochon et une truie qui débarque dans l'affaire pour raconter l'histoire de l'humanité. Et bon, on a créé ça dans la région parisienne et il y a un critique de théâtre qui a dit « Ah, enfin, un théâtre mal élevé ». Voilà. Évidemment, nous, c'est avec ce spectacle qu'on venait avec un petit drapeau faire de la décentralisation en Auvergne. Donc vous voyez le bazar. C'est-à-dire qu'on a toujours été un peu provocateur, c'est vrai, mais je pense que l'art est toujours une provocation parce que sinon on est dans le répétitif, hein, donc c'est pas de l'art.
Et donc parce que votre spectacle était provocateur, il n'était pas vraiment question de vous donner de l'argent. En tout cas, ça a freiné le robinet.
Allons. En plus, c'était un communiste qui défendait ce spectacle. Et évidemment, les élus à l'époque ont dit, mais enfin, socialiste et aussi de droite, ont dit, mais enfin, un spectacle comme ça en République démocratique allemande, mais il ne serait pas accepté. Et ce qui était vrai aussi, hein. Si vous voulez, l'art est anarchie. Ça, c'est toujours. Sinon, il n'y a pas d'art.
Bon, l'art est anarchie. L'art doit continuer à vivre, à être soutenu. C'est une question qui ne fait pas débat pour ceux qui considèrent la culture comme un service public.
Donc je m'appelle Yves Tess et je suis personnel de l'éducation nationale retraité. Je fais partie des personnels ouvriers. Donc je travaillais dans un lycée, au lycée Paul Constant à Montluçon. Et c'est à travers un média qui est le vôtre, la radio et en particulier France Culture, que j'ai pu m'ouvrir l'esprit au théâtre. Et en plus, il y avait cette chance, c'est qu'on pouvait le voir ici, proche de chez moi, à quelques mètres, quoi, 800, 900 mètres à faire pour aller au spectacle, c'est du bonheur.
Quand vous étiez petit, vous aviez déjà eu des contacts avec le théâtre, des ateliers théâtre?
Oui, bien sûr, parce que je fais partie d'une famille ouvrière, des ouvriers Michelin de Clermont-Ferrand. Et dans ces cités, on n'avait pas beaucoup d'opportunités, sauf quand c'était des pièces de théâtre qui étaient conduites par des troupes locales qui venaient pour nous apporter leur connaissance, et elles venaient dans les quartiers.
Qu'est-ce que ça a pu, entre guillemets, changer chez vous, cette rencontre avec le théâtre ?
Un besoin. Un besoin, une attirance, une façon de voyager à travers ces comédiens qui, eux, s'habillent de tous ces personnages. Et une façon aussi de sortir de nos quartiers, de nos vies. Ça m'a donné l'impression d'être un peu plus intelligent, même si c'est pas vrai. Donc, on y croit un peu.
Vous, aujourd'hui, Yves, Tess, vous vous êtes investi aussi en tant que jeune retraité. Vous travaillez un petit peu avec eux, avec ces compagnies théâtrales. Vous donnez un coup de main.
C'est le coup de main. C'est le coup de main pour des affiches, pour le collage. C'est déjà pas mal, ça.
Vous avez l'impression de rendre la monnaie de leurs pièces à des gens qui vous ont apporté beaucoup dans votre vie ?
Non, j'ai le sentiment de prolonger un bras, si vous voulez. Pour moi, la culture, c'est ça. La culture que les autres nous apportent, c'est un prolongement. C'est plus dans ce sens-là que de rendre la monnaie. La monnaie, je voudrais bien qu'elle continue à circuler pour faire vivre ces artistes. C'est tout l'enjeu du problème de nos sociétés actuelles.
Le témoignage d'Yves pour ouvrir la seconde partie de cette émission. Nos trois invités ont laissé leur place sur les planches au débat politique. Bonsoir à vous deux, Jean-Sébastien Laloy.
Bonsoir.
D'abord, bonsoir, vice-président en charge de la culture du Conseil général de l'Allier. Et à vous, Bernard Pozzoli, conseiller départemental d'opposition pour le PS. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Jean-Sébastien Laloy, c'est vous qui vous êtes proposé, on va dire, de couper le bras en question, le bras dont parlait Yves, en annonçant en décembre la suppression totale des aides aux compagnies artistiques de l'Allier. Est-ce que vous avez entendu la place pour beaucoup d'habitants de ce département rural, la place qu'a prise le théâtre dans leur vie ?
Oui, alors je vais commencer par rectifier quelque chose, c'est qu'il n'a jamais été question de supprimer intégralement les aides aux compagnies professionnelles de théâtre dans le département de l'Allier.
Le 15 décembre, c'est comme ça que ça a été présenté.
Non, c'est pas comme ça que ça a été présenté, en tout cas pas comme ça en session du conseil départemental. Ça a peut-être été interprété ou un certain nombre ont véhiculé ce message-là.
Alors,
mais il n'a jamais été
chiffres.
Question de supprimer intégralement les aides aux troupes de théâtre professionnelles dans l'Allier, parce qu'effectivement, vous avez raison de le préciser, je partage tout à fait votre analyse. C'est une grande richesse pour notre territoire et notamment pour les zones rurales. Ceci étant, personne ne l'ignore, aujourd'hui les collectivités territoriales, notamment les départements, font face à de grandes difficultés financières et on est obligé de trouver des pistes d'économie et dans toutes les délégations, dans toutes les compétences du conseil départemental, y compris dans la culture, même si évidemment on fait ça à contre-cœur, et notamment moi en charge de la culture. Pour vous donner des chiffres, on a souhaité, sur la thématique du spectacle vivant, conserver une enveloppe de l'ordre de 470 000 euros au niveau du conseil départemental de l'Allier pour l'année 2016, qui serait partie entre les aides au festival sur l'ensemble du territoire, des aides à la diffusion, notamment pour les compagnies professionnelles de théâtre qui se produisent dans le département de l'Allier. Et on est en train de travailler depuis la session du mois de décembre 2015 avec les troupes de théâtre qui sont constituées en collectif. On est en train de travailler, toujours dans cette enveloppe de 470 000 euros, à mettre en place un dispositif d'aide à la création. Ces compagnies ne se contentent pas de diffuser et de tourner dans le département, elles ont aussi besoin de périodes de création, et donc on est en train de travailler avec ce collectif pour essayer de trouver des solutions, mais je suis bien obligé d'en convenir, effectivement, les subventions baissent par rapport aux années précédentes, de la même manière que le budget du département est en baisse.
La baisse de la dotation de l'État, elle est de quel ordre dans l'Allier, à peu près ?
Alors, elle est d'environ 6 millions d'euros, il faut savoir que globalement, pour équilibrer le budget 2016, on a une recherche de 17 millions d'euros d'économies.
Donc vous êtes allé chercher dans tous les postes budgétaires ?
Dans tous les postes budgétaires. La culture est concernée, mais dans une moindre mesure par rapport à d'autres secteurs. Mais effectivement, globalement, toutes les délégations du conseil départemental sont en recherche d'économies. Et le conseil départemental lui-même, sur son propre train de vie, est en train de réaliser des économies importantes.
Bon, Bernard Pozzoli, vous qui connaissez très bien ces questions culturelles dans l'opposition au département, 470 000 euros, on a avancé par rapport aux propositions du mois de décembre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est ce qui a été voté au mois de décembre. Il n'était pas question de les supprimer. C'est l'enveloppe votée en session du mois de décembre.
Oui, moi, j'entends bien ce que dit Jean-Sébastien Laloy, mais moi, j'ai sous les yeux le rapport de la session du mois de décembre, en page 136, je m'excuse, il est marqué « suppression de l'aide aux compagnies professionnelles de théâtre ». Il y avait d'autres suppressions, l'aide à l'édition d'ouvrages, etc. Donc, si ça, tout le monde s'est mobilisé à ce moment-là, c'est bien pour ça, notamment. Alors, les difficultés des départements, comme de toutes les collectivités territoriales, on les connaît. J'ai été moi-même vice-président du Conseil général, premier vice-président jusqu'en 2015. Il faut qu'on cherche des économies, il faut aussi qu'on cherche des recettes nouvelles auprès de l'État. On, les uns et les autres, on s'est battus, y compris nous en 2013-2014. Il y a des discussions actuellement aussi sur les aides sociales. Mais on s'est aussi battus pour que le département reste comme niveau de collectivité. Certains voulaient le supprimer. On s'est battus pour que le département reste avec deux missions essentielles. La solidarité sociale et la solidarité territoriale et l'animation des territoires. Et donc, nous, on a trouvé que faire des baisses, y compris dans la culture, bien sûr, on aurait fait pareil si on était resté majoritaire. C'est-à-dire qu'on aurait cherché des économies, mais on les aurait certainement pas faites au même endroit. Certes, on a des musées départementaux qui nous coûtent cher. Certes, on continue d'aider les saisons culturelles des villes, et notamment des grandes villes. Mais la suppression des aides aux compagnies professionnelles de théâtre, ça a créé non seulement un émoi, mais tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et je crois qu'on a entendu tout à l'heure la richesse que ça représente en termes d'image, d'attractivité, d'animation et économie locale.
Jean-Sébastien Laloy, comment est-ce qu'on peut expliquer que certains départements comme l'Isère, par exemple, aient réussi à conserver, voire augmenter leur budget de la culture, et que dans un département comme l'Allier, mais qui préfigure sans doute ce qui va se passer au niveau national dans les années à venir, la culture soit vraiment devienne le parent pauvre?
L'Isère est dans une situation financière qui n'est pas comparable à celle du département de l'Allier. Je vous donnais tout à l'heure le chiffre de 17 millions d'euros pour équilibrer le budget 2016. Ça, c'est une réalité. Vous savez, dans un département, il n'y a pas 50 solutions lorsque l'on est dans cette situation-là. Soit on augmente les impôts, soit on s'endette, soit on fait des économies. Nous, on a fait le choix de faire des économies. C'est un choix, effectivement, qui est assumé, qui touche tous les secteurs. Mais je le répète, on a souhaité, sur l'ensemble du budget alloué à la culture, au développement artistique dans le département, être sur des baisses qui sont relativement limitées. Sur le budget global, il faut savoir que le budget global culturel du département de l'Allier pour l'année 2016 va être d'environ 6 millions d'euros. C'est une baisse de l'ordre de 5% par rapport aux années précédentes. Vous avez certains secteurs où on a baissé les subventions, baissé les budgets de l'ordre de 15-20%. On a essayé de sanctuariser le budget de la culture malgré toutes ces difficultés.
Et comme vous disait Bernard Pozzoli, il y a le budget de la culture et puis il y a les subventions aux compagnies théâtrales. Et dans l'Allier, elles sont nombreuses, ça c'est sûr. Donc sans doute qu'elles vous coûtent plus cher, mais elles sont garantes, on l'entendait, d'un certain équilibre social. Forcément d'une offre culturelle exceptionnelle.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Je partage tout à fait votre analyse. Et d'ailleurs, moi, je tiens à féliciter, à encourager cette richesse culturelle qu'apportent les compagnies de théâtre dans notre département, qui
Mais il faut continuer
particulier
à leur donner de l'argent,
parce
alors.
Que, comme le disait Bernard Pozzoli tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des zones urbaines, des grandes villes, et puis il y a un territoire rural dans le département qui est relativement vaste. Et ces compagnies apportent dans ces zones rurales une vraie plus-value culturelle, une vraie ouverture artistique. C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais souhaité supprimer intégralement les aides aux compagnies professionnelles de théâtre. Certains peuvent faire de la sémantique et reprendre quelques expressions dans la session du Conseil départemental. Il y a effectivement un dispositif de subvention qui a été supprimé, qui a été fléché directement à destination des compagnies professionnelles de théâtre. À la place de ce dispositif, on en a créé de nouveaux pour encourager la diffusion avec les aides au festival. Les compagnies dont vous avez parlé durant votre émission bénéficient de ce soutien pour le développement des festivals, et également une aide à la diffusion qui là aussi bénéficie directement aux compagnies professionnelles de théâtre, mais aussi aux communes qui les accueillent dans le cadre de leur saison artistique.
Bernard Pozzoli.
Oui, moi je pense, je ne veux pas faire de sémantique justement, moi je suis content qu'on soit là aujourd'hui parce que ça veut dire que tout le monde a pris conscience qu'il y avait peut-être des fausses pistes qui étaient engagées. Et tant mieux, je veux dire, dans la vie, on peut faire des erreurs, on en fait tous. L'essentiel, c'est de les reconnaître et surtout de les corriger.
Mais vous n'avez pas l'air d'être d'accord sur le contenu du projet.
Mais c'est pour ça que je ne veux pas discuter de ça, parce que c'était clair, c'est dans les documents de session, on a eu des débats. Ce qui a été voté en session du mois de décembre, c'est suppression des aides aux compagnies professionnelles de théâtre. Et c'était porté par Jean-Sébastien Laloy et le président Gérard Dériot. Depuis, il y a eu effectivement cette mobilisation des acteurs de théâtre, des gens qui aiment le théâtre, des habitants de l'Allier, des pétitions. Il y a eu des discussions qui se sont engagées entre la majorité départementale et ce collectif. Moi, je m'en félicite vraiment. Et l'objectif, c'est que demain, on trouve des solutions pour les compagnies de théâtre, mais aussi globalement pour la diffusion culturelle. Il y a des économies de fait dans la culture. Peut-être globalement moins qu'ailleurs, mais je trouve ce qui est regrettable, c'est que les économies ont été faites surtout, justement, sur les troupes professionnelles de théâtre, sur la diffusion, sur les festivals, parce qu'on va voir au bout du compte qu'il y aura moins d'argent. Par contre, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas touchées. C'est peut-être pas facile, mais les 6 millions d'euros, ils sont surtout parce qu'on a des musées départementaux qui nous coûtent cher, qui sont à Moulins. Mais par contre, ça n'irrigue pas le territoire comme ça devrait le faire.
Jean-Sébastien Lallois, la culture, finalement, elle se retrouve toujours en ville. À la fin, là, à Moulins ou à Montluçon, elle n'est pas vraiment menacée. Les dispositifs qui existent, les compagnies qui existent, les théâtres ne sont pas menacés. C'est souvent dans les campagnes que ça commence à, que le grand mouvement commence. Et donc, à la fin, les habitants risquent de se retrouver, disent-ils, avec la télé et l'auto, quoi, en gros.
Oui, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Moi, je suis le maire de la ville de Cussé, juste à côté de Vichy. C'est une commune de 14 000 habitants. On a la chance d'avoir un théâtre municipal avec un budget d'environ 1,5 million d'euros par an. Les communes ont également le problème de la baisse des dotations de l'État, de la même manière que le conseil départemental. Si moi, demain, je n'ai plus comme maire le soutien du conseil départemental pour la programmation culturelle du théâtre, elle va aussi diminuer et on pourra programmer moins de spectacles. Donc, nous avons souhaité, dans le cadre des budgets de la collectivité pour l'année 2016, effectivement, il faut le dire très clairement, nous avons souhaité sanctuariser les aides qui vont en direction des communes, toutes les communes, pas uniquement les grandes villes, mais toutes les communes, on leur est sanctuarisé pour leur programmation culturelle. C'est important. Les compagnies dont vous avez parlé tout à l'heure, elles se produisent également dans les théâtres des villes.
Vous, en tant que chargé des questions culturelles au Conseil général, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mis en avant dans la culture ? Après tout, vous pourriez ne pas aimer le théâtre, c'est votre droit par exemple.
Ah bah, je viens de vous dire à l'instant que je suis à la tête d'une ville qui a un théâtre avec un budget d'1,5 million d'euros. J'aurais du mal à vous dire que je n'aime pas ça. Non, non, au contraire. On a la chance, je parle de la ville de Cussé que je connais bien, d'avoir de vraies richesses culturelles. Et non, non, absolument pas. Je crois effectivement, et les troupes que vous avez reçues l'ont bien prouvé, que c'est une vraie richesse culturel pour le département de l'Allier. Après, disons aussi les choses clairement, la culture, le développement culturel, c'est pas uniquement le théâtre, même s'il prend toute sa part, notamment en zone rurale, c'est aussi effectivement les musées départementaux, c'est les écoles de musique qui sont aidées par le conseil départemental, c'est les bibliothèques qui sont accompagnées par le conseil départemental, c'est ces saisons culturelles dans les communes, et puis c'est un certain nombre aussi de structures emblématiques du département qui sont accompagnées par le conseil départemental, le CNCS à Moulins, le CDN dont a parlé tout à l'heure Olivier Perrier à Montluçon, qui bénéficie du soutien de notre collectivité malgré les difficultés financières.
Bernard Pozzoli, l'un des arguments, entre autres, hein, évidemment, pour dire qu'il faut conserver cette richesse-là dans l'Allier, c'est de dire que les compagnies font vivre les communes autour de Hérisson. Une commerçante, d'ailleurs, nous disait que sans elle, elle devrait mettre la clé sous la porte. Pourtant, force est de reconnaître aussi que malgré la richesse de son offre culturelle, Hérisson a subi le même sort que de nombreuses communes rurales, fermeture des commerces, dépeuplement, 645 habitants en recensement de 2013, ils étaient plus de 700 quelques années avant. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment faire la corrélation entre présence d'une offre culturelle et vitalité d'un département ?
Alors, la culture, ça peut être qu'un aspect. Effectivement, les habitants, ils vont là où il y a de l'activité, de l'emploi, etc. Ils vont là où il y a des commerces, où il y a une vie. Malheureusement, dans nos zones rurales, dans un département qui a perdu des habitants, même si maintenant on arrive à stabiliser un peu, c'est compliqué de maintenir la vie, justement, dans certains territoires ruraux. Et alors, un des rôles du conseil départemental, comme des conseils municipaux, c'est justement de soutenir ce qui peut conserver justement de la vie dans les territoires. Et Hérisson, Comte d'Allier, Maillet, etc., c'est vraiment des exemples où s'il n'y avait pas en plus tous ces acteurs culturels, toute cette économie qui s'est créée, ça serait des déserts complets. Alors ça ne veut pas dire que ça a enrayé la perte de population, parce que malheureusement, ça, on ne peut pas l'enrayer simplement, même s'ils font beaucoup de choses, simplement avec des compagnies de théâtre et avec de l'animation théâtrale. La vie, il y a malheureusement beaucoup d'autres choses qui la font. Mais moi, je crois vraiment qu'il faut, et je suis content qu'aujourd'hui on parle de ça, qu'il faut retrouver cette voie du dialogue qui vient d'être prise pour leur proposer des solutions. Parce que si leur subvention avait été baissée de 10 ou 15% au mois de décembre, il n'y aurait pas eu l'émoi qu'il y a eu. Donc c'est bien qu'à ce moment-là, il y a eu une erreur, je pense, de la majorité départementale. Quand le président Desrieaux dit dans la presse « ils ne vivent que de subventions, ils font même pas payer les spectateurs », c'est même insultant et c'est méconnaître justement tout ce qu'ils nous ont expliqué tout à l'heure et tout ce qu'on connaît sur le territoire.
Jean-Sébastien Laloy.
Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait eu d'erreur à proprement parler. On est simplement face à une situation financière qui est tout simplement catastrophique pour notre département. Certains ont réussi à politiser ce débat, à employer les bons éléments de langage et à inquiéter les compagnies du département. Moi, je réfute l'argument selon lequel il n'y a jamais eu de dialogue. J'ai reçu un grand nombre de compagnies de théâtre, le président du conseil départemental, Gérard Desrieaux, également.
Vous les avez reçues après l'annonce du 15 décembre.
Non, certaines ont été reçues, celles qui l'ont demandé et celles que l'on a sollicitées avant les annonces du 15 décembre. Et depuis maintenant plusieurs semaines, on travaille avec le collectif allié Culture Territoire, justement pour que ces compagnies ne se retrouvent pas en difficulté financière. La pire des choses, vous avez raison, ce serait que des compagnies disparaissent. Ça n'a jamais été notre souhait et c'est la raison pour laquelle on est à leur écoute pour essayer de trouver des solutions malgré nos difficultés. Je vais vous donner des chiffres très précis parce que c'est important. On peut dire tout un tas de choses. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Je peux vous prendre un exemple sans citer la compagnie. Une compagnie qui a environ 350 000 euros de budget annuel, qui jusqu'ici avait une subvention du conseil départemental de 20 000 euros, qui, à partir de 2016, aura une subvention de 14 000, 15 000 euros. C'est-à-dire que, globalement, elle va perdre 5 000 euros sur un budget d'un peu plus de 300 000.
Mais
cette compagnie,
compagnies...
demain, elle ne sera pas en difficulté. Elle pourra continuer à exister malgré les difficultés du département.
Mais d'autres compagnies qu'on a contactées nous ont dit, nous, on n'aura plus rien.
Non, mais je peux vous le répéter autant de fois que vous le souhaitez. Il n'a jamais été question de supprimer les aides aux compagnies professionnelles de théâtre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2016, c'est 470 000 euros de subvention du département pour le spectacle vivant.
À propos de spectacle vivant, quand vous avez accédé à la mairie de QC en 2014, vous avez dit que vous souhaitiez, pour votre commune, recréer des festivités populaires. C'est quoi? C'est folklorique? C'est vous pensez à quoi quand vous parlez
de festivités? Je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Olivier Perrier. Il disait, nous, on n'était pas dans... quand on a créé les fédérés, il a dit on voulait pas être dans la culture savante, on voulait être dans le théâtre populaire. Ben moi, je crois effectivement, et c'est la raison pour laquelle j'avais fait ces déclarations en 2014 à QC, je crois qu'il faut qu'on soit sur effectivement une culture, un théâtre qui soit ouvert au plus grand nombre. Souvent, le théâtre est vécu un petit peu comme un lieu sanctuaire où une partie de la population qui n'a pas forcément cette culture du théâtre n'ose pas aller. Nous, on a souhaité justement avoir une programmation qui soit accessible. L'exemple des chapiteaux qui était donné tout à l'heure par le Futsbarn est intéressant. C'est vrai que on est à QC, une ville conventionnée art du cirque. Le chapiteau est quelque chose qui permet au plus grand nombre d'accéder à la culture, d'accéder aux représentations théâtrales. Et c'est ça que j'entends tout simplement par un théâtre populaire.
Alors, je voulais vous citer un comédien, auteur et metteur en scène qui, dans la pétition qui a circulé après le 15 décembre, parle de ces vieilles femmes qui pleurent de rire, d'un rire si féroce qu'on a l'impression qu'elles n'ont pas ri depuis la déclaration de la fin de la guerre, d'hommes élégants qui écrasent une larme dans l'obscurité de la salle, d'enfants aux yeux ronds comme des soucoupes. Quand on donne un spectacle dans la salle, nous fédérons l'humanité comme vous êtes incapable de le faire, même lors d'élections, dit-il aux politiques.
Oh ben, je peux signer ces propos, c'est une très belle déclaration et je vous garantis que ça continuera, y compris en 2016 et dans les années suivantes.
Bernard Pozzoli.
Moi je suis très heureux que tous les conseillers départementaux de l'Allier aient mal compris au mois de décembre et qu'aujourd'hui on travaille et la majorité départementale travaille à trouver des solutions parce que je crois que c'est vraiment l'intérêt du département de l'Allier, l'intérêt des compagnies bien sûr, mais l'intérêt de la vie de nos territoires et de l'image de nos départements.
Ben donc voilà, il suffisait content. De le dire, toutes les,
tout
les compagnies sont sauvées.
Voilà, et on a mis l'accent sur ces compagnies, ça a permis de mettre un coup de projet supplémentaires, c'est bien.
Et elles le seront davantage encore si l'État arrête de baisser les dotations des collectivités.
Ben là-dessus, on sera ensemble.
Merci beaucoup à vous deux, Jean-Sébastien Laloy, vice-président du Conseil général chargé de la culture, et à vous, Bernard Pozzoli, conseiller départemental dans l'opposition de gauche. Merci Olivier Perrier, Michel Durantin du Petit Bastringue et Freddy Etter de Futsbarn. Et merci à toutes les compagnies théâtrales qui nous ont fait part de leurs inquiétudes et dont la pétition est toujours en ligne sur Internet. Je rappelle que vous pouvez commenter et télécharger cette émission ainsi que nos épisodes précédent sur le site de France Culture à la page de Sur la route. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à l'équipe de France Bleu Pays d'Auvergne pour son accueil. À la technique, c'était Loïc Fréméa. La semaine prochaine, nous serons à l'Île-Dieu, qui devrait bientôt faire face à un gigantesque parc éolien à moins de 12 km des côtes, l'occasion de débattre sur l'énergie éolienne offshore, comme on dit. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un monde.